Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Après la libération de Mossoul en Irak, le voile se lève peu à peu sur la réalité du projet politique et social de l'État islamique. Quels étaient ses objectifs? Quels ont été les moyens déployés pour quelle structure et quelle organisation? La journaliste Hélène Salon propose une première approche. Entrée dans la ville avec les militaires des forces spéciales irakiennes, elle a pu mener de façon indépendante des entretiens avec de nombreux habitants de la ville libérée. Des témoignages inédits qui racontent la mise en place systématique d'une administration minutieuse, tatillonne et implacable dans tous les domaines de la vie. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Hélène Salon.
Bonjour.
Journaliste à la rubrique Moyen-Orient du journal Le Monde. Vous publiez aux éditions de La Découverte « L'État islamique de Mossoul ». Alors c'est le fruit d'un travail d'enquête sur le terrain qui s'appuie sur de nombreux témoignages d'habitants de cette ville, une ville irakienne, la deuxième du pays, qui est tombée sous la domination de Daesh, l'État islamique, en juin 2014. Hélène Salon, dans quelles circonstances êtes-vous arrivée à Mossoul ?
Alors je suis allée à Mossoul la première fois pour couvrir la bataille de Mossoul, de reconquête de la ville aux mains de l'État islamique par les forces irakiennes. C'était un contexte particulier parce qu'on avait fait le choix avec mon photographe Laurent Van der Stock de l'immersion avec les forces antiterroristes irakiennes parce qu'elles étaient en première ligne de la bataille. Donc c'était pour nous l'assurance de suivre les combats au plus près et aussi d'observer l'État islamique au plus près dans la bataille. Donc c'est dans ces circonstances-là, pendant la bataille, que j'ai rencontré des témoins et aussi dans les moments après la bataille, quand la reconquête était achevée de certains quartiers, on prenait le temps d'aller à la rencontre des habitants.
Alors quel était l'accueil des habitants lorsque vous êtes arrivé dans la ville ou peut-être même avant dans les faubourgs ?
Très différent en fait pendant la bataille de l'Est et de l'Ouest. À l'Est, j'ai été surprise moi-même et assez rassurée de voir que les forces antiterroristes étaient plutôt bien accueillies parce que c'était moins tendu. La bataille n'a pas été aussi dure qu'à l'Ouest en fait. Donc il n'y a pas eu énormément de pertes civiles, de dégâts. Donc l'accueil était plutôt favorable. À l'Ouest, ça a été tout autre chose. La bataille a été très dure, notamment dans la vieille ville qui a été le dernier mois de bataille où ça a été une bataille très très difficile. On compare à Stalingrad avec énormément de destruction, énormément de pertes civiles, de pertes dans les rangs des soldats. Donc c'était un face-à-face très tendu, des gens éprouvés après plusieurs mois de siège qui étaient dans une colère terrible, une amertume. Donc c'était beaucoup plus difficile pour leur parler.
Dans ce contexte, est-ce que vous avez pu vous entretenir avec les Mossouliotes, comme vous les appelez dans le livre, sans crainte?
C'est tout un aménagement en fait, parce que il faut voir que la collecte des témoignages s'est faite beaucoup pendant la bataille, même quand c'était dans des zones déjà libérées, ça restait un temps de bataille, à un temps où la ville n'avait pas été sécurisée. Donc les soldats ne nous laissaient pas forcément aller nous promener seuls très longtemps ou sans escorte. Donc il fallait ménager en fait des espaces sans militaires. Donc soit on le fait quand ils sont occupés ailleurs très vite, soit on négocie avec eux et c'est là où je les remercie même dans le livre, c'est que certains officiers ont dit d'accord, vous avez le droit de faire des interviews sans la présence de militaires, ce qui a permis de libérer la parole et c'est aussi pour moi d'avoir pu revoir plusieurs fois les mêmes familles, les mêmes personnes ou d'être introduite par des habitants qui m'a permis de gagner la confiance de certains pour une parole plus libérée.
Justement, que vous disent les habitants à ce moment-là, ceux que vous avez vus au fil de vos rencontres, sur l'installation de l'État islamique en 2014 ?
Tous sont assez majoritairement, tous vont vous dire que ils n'ont pas compris ce qui arrivait. Alors c'est vrai que la ville était depuis longtemps grignotée par les réseaux djihadistes, il y avait un réseau mafieux, de l'extorsion. Mais il y a eu, ça s'est fait très vite, hein, la ville est tombée en 4 jours. Ils ne savaient pas qui était l'État islamique. Ils étaient pas encore vraiment sûrs que c'était les djihadistes parce que des mouvements nationalistes sunnites s'étaient alliés avec eux en pensant qu'ils allaient leur redonner le pouvoir. Donc c'est ce que pensaient aussi les gens, que le pouvoir allait revenir aux nationalistes sunnites de Mossoul et non aux djihadistes. Donc ils étaient, ils ne connaissaient pas en fait les envahisseurs. Il y a eu toute une période de séduction. Donc, les djihadistes de l'État islamique n'ont pas tout de suite montré leur vrai visage, ni leurs vraies règles. Donc, les gens étaient plutôt positivement surpris, en disant, bah en fait, on n'a pas eu d'électricité, d'eau, de rue qui était en bon état pendant 10 ans, et là, ils réparent tout. La sécurité est là, on n'est plus arrêté par la police et par l'armée. Ils étaient plutôt favorables à leur règne au début.
Et vous écrivez même que l'État islamique tentait de mettre en place un système égalitaire, en tout cas plus égalitaire qu'avant.
Oui, parce qu'il respectait vraiment les règles, par exemple, islamiques sur la zakat, donc la collecte était fixée à 2,5%, tous les commerces payaient des sommes qui étaient fixées à l'avance, régulières, plus de corruption, donc... Bon, les gens, n'avaient plus cette pression de la corruption, de l'extorsion. Ils étaient, c'était égalitaire. Donc, c'était plutôt positif, même si certains disent, on n'avait pas de taxes sur la collecte des déchets. On en a eu, même sur les téléphones fixes, alors qu'on n'avait pas de téléphone fixe. Mais au final, on avait quelqu'un qui venait tous les matins frapper à la porte pour ramasser les déchets. Donc, c'est plutôt mieux qu'avant où on n'avait personne qui ramassait les déchets.
Alors, à quel moment ça change et qu'est-ce qui change précisément?
En fait, ils ont, dès le début, annoncé ce qu'ils allaient faire, mais les gens s'en sont pas vraiment réalisés. Cela, ils ont, dès le 13 juin, donc 3 jours après la chute, distribué ce qu'ils ont appelé la constitution de la ville, qui annonçait déjà, c'est leur charte, leur constitution, donc ils annonçaient les châtiments publics, donc les mains coupées, les exécutions, ceux qui étaient interdits, fumer, se maquiller, pour les femmes porter le voile intégral et d'autres règles sur les opposants politiques, les minorités, mais ça n'a pas été appliqué tout de suite. C'était la phase de séduction, justement. Et ça a pris plusieurs semaines avant que les djihadistes n'appliquent ces règles. Et ils l'ont fait de façon très étalée. Ils publiaient un décret, ils laissaient la rumeur un peu enflée, et hop, du jour au lendemain, la police religieuse, qui n'est apparue que mi-juillet, donc un mois plus tard, commençait à faire appliquer ces règles en arrêtant les contrevenants, donc les fumeurs, par exemple, les boutiques qui ne se pliaient pas aux règles qui avaient été instaurées. Et comme ça, les minorités qui ont commencé à être harcelées ou même pourchassées. Donc, ça a été très progressif. Et je pense, chaque témoin a une idée un peu vague du jour auquel tout a été appliqué. Mais je dirais que c'était vers septembre, début septembre, où vraiment là, la constitution de la ville a été pleinement appliquée. Et ça correspond aussi au moment où ils ont sécurisé leur espace, leur contrôle sur la ville, et que les frappes aussi aériennes ont commencé de la coalition internationale, où là, ils ont commencé à être dans leur califat assiégé.
Mais à un moment donné, l'État islamique commence à recruter. Pour recruter, il fait des offres sonnantes et trébuchantes, de l'argent, des femmes, pour les jeunes qui s'enrôleraient dans leur rang. Qui sont ces jeunes qui vont s'enrôler?
Oui, ils ont ouvert très vite des bureaux, dès les premiers jours, des bureaux de recrutement. Et avec donc des témoins disent, notamment Mossoul Aï, qui est ce blogueur qui a chroniqué et noté tous les édits qu'il voyait apparaître dans la ville, qui parlait de $800 pour les meilleurs soldats, 400 pour les petits, avec une femme, peut-être des moutons aussi, des offres en nature et en cash. Et dès les premiers jours, on voit beaucoup d'adolescents, de jeunes désœuvrés finalement, qui n'ont pas de boulot, qui sont attirés par ce salaire qui est quand même conséquent en Irak, la perspective de pouvoir trouver une femme, fonder une famille, et qui vont se rendre en masse dans les bureaux de recrutement. Il y a aussi le facteur tribal qui joue. Ce qui est intéressant dans ce que j'ai pu observer à Mossoul, c'est qu'il y a vraiment un face-à-face depuis des années entre les gens des campagnes qui sont plutôt rattachés à la culture tribale et les citadins. Mossoul, c'est une ville multimillénaire, avec une élite citadine très ancienne, très ancrée, très fière de son identité, de sa culture, et qui n'a pas supporté l'arrivée en masse pendant les années de Saddam de ces gens des tribus venus de la campagne, et qui les ont un peu marginalisés. Donc c'est aussi la revanche des gens des tribus sur les vieilles élites citadines. Donc de ce fait-là, ces clans ont adhéré en masse au nouvel occupant qui promettait de balayer les vieilles élites et les vieux pouvoirs.
Alors, l'État islamique a eu la mainmise sur la ville et ses environs, Mossoul et Ninive, bien entendu. Une mainmise sur l'économie, mais aussi sur la vie sociale, et notamment sur la vie des femmes. Vous dites d'ailleurs que Mossoul, c'est un monde sans femmes. Que voulez-vous dire ?
Oui, c'est devenu un monde sans femmes parce qu'ils ont, donc dans la constitution de la ville, et ils l'ont appliqué très vite pour ce qui est des femmes, ils ont interdit aux femmes donc de se maquiller, de sortir sans voile intégrale, et même ils leur recommandaient de ne pas sortir sauf nécessité. Et dès mi-juillet, ils ont imposé cette tenue vestimentaire, ainsi qu'aux hommes une tenue modeste, ils ont imposé aux commerçants qui vendaient des vêtements de ne vendre plus que ça. Et les femmes qui sortaient, alors ne devaient pas regarder les hommes dans les yeux, ne devaient pas entendre le son de leur voix. Il y avait la police religieuse qui traquait toute contrevenante, donc si un bout de peau dépassait, ils utilisaient cette mâchoire de fer qui est un instrument de torture atroce, qui est assez large, on va dire une dizaine de centimètres avec des dents de 5-8 centimètres, qui venait mordre les femmes et faire des blessures qui ont, pour certaines, ont été mortelles car ça s'infectait, etc. Et beaucoup de familles ont décidé de ne plus laisser les femmes sortir pour les protéger.
Mais celles qui travaillaient pouvaient aller
travailler. Alors il y avait celles qui travaillaient parce que c'était aussi un peu paradoxal, c'est qu'ils empêchaient, ils disaient aux femmes ne sortez pas sauf nécessité, mais ils avaient besoin des infirmières, des professeurs, et donc ils les forçaient même à aller travailler. Et donc celles-ci étaient soumises à avoir un tuteur mâle comme en Arabie Saoudite. Donc par exemple j'ai rencontré cette chirurgienne de 33 ans qui a plusieurs années été chirurgienne, même dans le Sinjar, à plus de 100 km de Mossoul, qui allait tous les jours, faisait les allers-retours seule, sans que sa famille ne s'en offusque, et qui s'est retrouvée à devoir continuer à exercer à l'hôpital en ayant son père qui l'amenait chaque matin et qui venait la récupérer chaque soir. Et pour cette famille, c'était totalement incongru.
Alors, on comprend bien la mainmise de l'État islamique sur la ville. Quand l'État islamique s'en va à l'issue de cette guerre civile, à l'automne 2017, ils vont systématiquement dynamiter tous les lieux emblématiques de Mossoul. Qu'en ont pensé les habitants à ce moment-là ?
Ils ont commencé à le faire même avant tous les lieux qui étaient pour eux apostats, idolâtres. Ils avaient commencé à les dynamiter. Ils avaient préservé ce qu'on appelle Al-Adba, donc la mosquée Al-Nouri et le minaret d'Al-Adba, qui est vraiment le symbole de Mossoul. Hein. On le retrouve même
de
la vieille ville de Mossoul et même de l'Irak. On le retrouve sur certains billets irakiens qui datent du 12e siècle de notre ère. Donc c'est vraiment un monument. Ils ont essayé de le dynamiter au début. Les gens ont fait une chaîne humaine pour le protéger, donc ils ont renoncé et ils ont planté leur drapeau, un peu pour se venger, et ils l'ont dynamité fin juin. Pour les gens, c'est une perte d'identité, c'est pour eux, Al-Adba, c'est leur identité, et c'est le symbole de leur perte d'identité avec la guerre.
Merci Hélène Salon, journaliste à la rubrique Moyen-Orient du journal Le Monde.
Merci.
Et je renvoie à votre livre « État islamique de Mossoul, histoire d'une entreprise totalitaire ». C'est publié aux éditions de La Découverte.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la situation en Syrie et les tentatives pour trouver une solution à la crise font la une de la presse panarabe.
Oui, il y a d'abord la situation sur le terrain et l'offensive turque contre la ville de Afrin. La plupart des journaux lui consacrent une couverture factuelle, presque neutre, sauf pour la presse égyptienne qui reflète les tensions diplomatiques entre le Caire et Ankara. Plusieurs éditorialistes évoquent le mécontentement français, mais surtout l'embarras américain. Washington ne peut pas condamner l'opération de son allié turc de l'OTAN, car les États-Unis considèrent le PKK kurde, qu'Ankara affirme combattre à Afrin, comme un mouvement terroriste. Le problème, c'est que les combattants kurdes ont prouvé être la force la plus efficace dans le combat contre le groupe État islamique. Un groupe qui pourrait se renforcer à nouveau en cas d'affaiblissement kurde. Concernant les négociations de Sotchi, certains analystes se demandent si la Russie ne cherche pas discrètement quelqu'un pour remplacer Bachar el-Assad à la tête du pouvoir à Damas.
La presse israélienne évoque également la Syrie, Michel, mais c'est en raison d'un regain de tensions militaires dans la région.
Oui, une série d'articles dans la presse israélienne de ce week-end qui entre dans une catégorie que l'on pourrait intituler, Rick, « bruit de bottes ». La situation se réchauffe à la fois à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, mais surtout sur le front nord, Syrie et aussi Liban. On trouve un peu partout cette citation du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman. Si les habitants de Tel Aviv doivent descendre dans les abris, eh bien ce sera le cas aussi pour la population de Beyrouth. Et ce n'est pas par hasard si le quotidien Yediot Aharonot publie à la une un article sur la nouvelle division que l'armée israélienne met sur pied, une division de missiles terre-terre d'une portée de 150 km. Dans un premier temps. C'est la réponse, selon le journal, à la nouvelle menace présentée par le Hezbollah, celle des missiles à objectif précis. L'organisation chiite en détiendrait un millier. Ce sera la première guerre entre Israël et le front nord unifié, titre un quotidien, entendez donc Liban et aussi Syrie. Et un autre article tente d'expliquer comment on finit par faire la guerre, alors que tous les partenaires parlent de paix.
Et puis le statut des demandeurs d'asile est remis en question. Michel, c'est un débat brûlant en Israël.
Oui, des pages entières dans les journaux sont consacrées à ce sujet, notamment des pétitions de toutes sortes d'organisations, des universitaires et des écrivains, des artistes et des fonctionnaires qui réclament l'abandon de la nouvelle politique en ce qui concerne les migrants en provenance d'Afrique et qui font des analogies avec la situation des Juifs en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de dimanche, 40 000 réfugiés devraient être expulsés, munis d'un petit pécule vers des pays tiers. Haaretz, dans son édition du week-end, en fait sa manchette. Les demandeurs d'asile expulsés vers le Rwanda racontent et ils lancent un appel aux réfugiés encore en Israël. « N'acceptez pas de venir ici », disent-ils.
Dans le journal Al-Quds Al-Arabi, Alexandre, un reportage sur le théâtre de rue en Égypte.
Oui, un théâtre qui a commencé à se répandre après le soulèvement contre l'ex-président Moubarak en 2011. Aujourd'hui, il y a la troupe Al-Nas qui est devenue une sorte d'institution. Elle opère principalement dans les quartiers populaires ou informels au Caire, à Alexandrie et dans d'autres villes. Les acteurs amateurs formés par l'école de la troupe soulèvent notamment les problèmes économiques et sociaux. L'objectif est de pousser les spectateurs à chercher eux-mêmes les solutions. L'entreprise a eu tellement de succès que plusieurs troupes de pays arabes cherchent à recopier le modèle pour l'adapter à leur environnement. Une règle d'or qui a permis à la troupe Al-Nas de survivre, éviter de parler politique.
Pour conclure, Michel Paul, l'image de la semaine.
Bien, c'est une photo qui montre l'emplacement de bases secrètes en Israël. Elle est réalisée à partir du site internet Strava qui cartographie les parcours empruntés par les sportifs porteurs de bracelets connectés, distribués notamment aux militaires.
Et ça ressemble à de l'espionnage, non? Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. À noter que la musique de cette émission était signée Akrasi Kauda, c'est un groupe de rock metal irakien exilé aux États-Unis. Musique extraite de leur dernier album Gilgamesh. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite, un nouveau journal.